Et donc nous sommes toujours sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité, dans une émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui au livre et à ses thèses Crise de Léon de Matisse, paru aux éditions Entremonde en 2012. Et après une première partie consacrée à l'ouvrage dans son ensemble, aux raisons qui ont conduit à son écriture et aux différentes thèses qui y sont développées, nous allons maintenant parler d'un point spécifique et qui nous semble important aujourd'hui d'évoquer, qui est la question de la création monétaire aujourd'hui et de son histoire, parce qu'on a vu fleurir, notamment ces dernières années, une théorie, enfin plusieurs théories même, conspirationnistes de la création monétaire, avec l'idée que, au fond, les banquiers seraient des faux monnayeurs. Alors, une idée qui serait même attestée par un prix Nobel d'économie, Maurice Allais, et que les banquiers seraient des faux monnayeurs parce que, ils créeraient de l'argent, non pas à partir de valeurs passées, mais à partir de rien, ex nihilo, et que cela constituerait le plus grand scandale de l'histoire, etc., etc. Alors parfois ça peut être lié, au complot de la Réserve fédérale, des financiers qui auraient le pouvoir de créer de la monnaie, donc d'une certaine façon de partir de zéro immédiatement arriver à 100, et puis ensuite faire fructifier en plus avec les intérêts, et à la fin se faire 110 à partir de zéro. Alors qu'on verra qu'en fait cette explication est fausse. Et les banques commerciales, sans parler des banques centrales, pourraient elles aussi créer 100 à partir de zéro, avec les intérêts se faire 110. Et on verra que dans ce cas-là aussi, le raisonnement est faux. Et donc du coup, on pense que c'est important de revenir sur la création monétaire, à la fois au niveau des banques commerciales, et puis à la fois au niveau des banques centrales. Et je trouve que c'est peut-être le point le plus... c'est mon point de vue. Hein, peut-être un des points les plus novateurs du livre, d'avoir une explication très claire de ce que c'est que la création monétaire, et qui on propose une véritable analyse structurelle, qui est évidemment critique, hein, qu'il ne s'agit pas de dire « c'est merveilleux, il faut rester là-dedans ». Mais évidemment, ça fait partie des structures qu'il faudra abolir dans un dépassement du capitalisme. Mais en tout cas, on en a une explication très claire. Et du coup, est-ce que tu pourrais revenir là-dessus?
Oui, je vais revenir dessus en faisant deux petites observations au départ. La première, c'est que oui, bien sûr, le dépassement du capitalisme, c'est l'abolition de l'argent sous toutes ses formes. Et je dis bien sous toutes ses formes parce qu'effectivement, malheureusement, il y a aussi maintenant des espèces de monnaies alternatives qui ne résolvent rien, hein, qui ne font que reprendre le fonctionnement du capital en espérant l'améliorer, ce qui est impossible. Et la deuxième chose, effectivement, ces théories dont tu parles et qui disent c'est de la faute des banquiers, c'est les banques centrales, c'est les financiers, etc. Les banquiers sont des voleurs, ils créent de l'argent à partir de rien, etc. Moi, je veux bien qu'on dise que les banquiers sont des voleurs, c'est sans doute vrai, mais dans ce cas-là, n'importe quel patron est un voleur, n'importe quel entrepreneur capitaliste est un voleur, il est un voleur de temps de travail de ses ouvriers, il est un voleur avant tout de la vie de ses ouvriers, parce que le temps de travail n'existe que parce qu'il y a du capital, et même le travail lui-même, comme catégorie sociale, est un produit du mode de production capitaliste. Mais par contre, les contraintes au travail... sont des choses bien réelles qui pèsent sur la vie des gens, et tout capitaliste est un voleur de ce point de vue-là, de la substance de la vie des travailleurs, voilà, et même des chômeurs d'ailleurs, puisqu'ils seront aussi contraints à un certain nombre de choses. Bref, donc ceci étant dit, effectivement, j'ai voulu dans mon livre consacrer un chapitre au mécanisme de la création monétaire contemporaine, c'est-à-dire ceux de maintenant, chapitre qui est donc le troisième du livre, qui s'appelle, de manière un peu ironique, « Argent pas cher », puisque, qu'est-ce que c'est que la monnaie à l'heure actuelle? Alors, quand je dis à l'heure actuelle, en 2017, lorsqu'on a un billet de 10 euros dans sa poche, qu'est-ce qu'il représente? Alors, il représente une dette, et il représente une dette à un double niveau. Alors, tout simplement, j'ai parlé de billets de banque, donc il s'agit d'une certaine forme de la monnaie. Vous savez que la monnaie peut avoir plusieurs formes. Elle peut effectivement avoir la forme de ce billet de banque. Elle peut aussi avoir la forme d'un compte dans une banque. Alors, pour un consommateur lambda, on passe d'une forme à l'autre relativement facilement par le biais d'un distributeur automatique de billets. Mais donc, ça n'a pas beaucoup de conséquences de savoir si on a de la monnaie scripturale ou fiduciaire, etc., enfin, puisque tels sont les termes qu'on utilise. Mais en réalité, ce sont deux formes de monnaie un peu différentes. Dans un premier cas, c'est de la monnaie bancaire. Dans le deuxième cas, de la monnaie centrale, dans le cas du billet. Et qui ne sont pas forcément émises par les mêmes autorités, même si, bien entendu, le système est hiérarchisé et fonctionne, il est régulé, comme on dit, de nos jours. Alors, pourquoi donc ce billet de banque est-il une dette ? Bah parce que finalement, alors puisque c'est un billet de banque et que les billets de banque, à l'heure actuelle, depuis le monopole de la Banque de France et maintenant de la Banque européenne, depuis le monopole de l'émission des billets de banque, ce sont seulement des banques centrales qui peuvent les émettre. Eh bien, ces billets, donc, sont une sorte de dette de la Banque centrale, en réalité. Ils représentent une dette de la Banque centrale. Quand nous avons de la monnaie bancaire, ça peut être une dette simplement de la banque elle-même, qui est elle-même adossée sur de la monnaie centrale, c'est-à-dire sur la dette de la banque centrale. C'est pourquoi la monnaie bancaire, je ne vais pas trop insister là-dessus, hein, parce que les banques ordinaires créent et détruisent de la monnaie continuellement par le biais des découverts et des prêts qu'elles accordent, mais enfin, peu importe. En tout cas, on peut raisonner simplement sur la monnaie centrale si on veut. Donc, la monnaie centrale représente une dette de la banque centrale. Et qu'est-ce que la Banque centrale a par rapport à cette dette en échange ? Bien, à l'époque de la monnaie marchandise, elle avait des réserves en marchandises, alors en l'occurrence en métal précieux. De nos jours, il n'y en a que de manière très résiduelle. En réalité, ce que la Banque centrale a en échange de sa dette, eh bien, c'est une autre dette. Hein. C'est pour ça que je dis que l'argent, c'est de la dette sur de la dette, d'une certaine manière. Alors, cette autre dette, ça peut représenter soit, donc je l'ai dit, de manière très résiduelle, éventuellement des réserves d'or. Mais depuis la démonétarisation de l'or, ça n'a plus d'importance. Ça peut être représenté par des devises, donc autrement dit, des dettes d'une autre banque centrale, puisque finalement, c'est ça, une devise. Et ça peut surtout être des titres, soit sur l'économie, soit, et c'est ça quand même beaucoup plus important, soit des titres sur l'État, autrement dit de la dette d'État. Hein, c'est pourquoi la dette publique a un rôle aussi important. C'est parce que la dette publique, finalement, elle permet de donner sa valeur à l'argent. Et que si, comme ça a été le cas récemment, il y a des États qui ont une crise de leur dette publique, eh bien, c'est tout simplement la valeur de la monnaie qui est éventuellement en cause. Alors, si j'explique la création donc, de monnaie de cette manière-là, c'est parce qu'en 2007-2008, au moment justement de la crise des subprimes, il y a eu un souci en fait avec le refinancement des banques. C'est-à-dire que les banques ordinaires créent et détruisent de la monnaie bancaire continuellement, donc il y a toujours de la dette. Et en gros, lorsque elles ont un besoin de ce qu'on appelle se refinancer, c'est-à-dire de reprendre un petit peu d'argent central parce qu'elles en manquent, eh ben, elles peuvent l'emprunter aux autres banques. Sauf que le problème qui s'est passé au moment de 2007-2008, au moment de la chute de Lehman Brothers et de grandes banques, c'est que les banques, en fait, ont commencé à se méfier les unes des autres. Elles n'ont plus osé se prêter de l'argent. Et donc, le système a failli se gripper, tout simplement. Et ce sont les banques centrales qui ont dû intervenir massivement, en créant massivement de la monnaie centrale pour qu'il y ait encore des liquidités qui puissent circuler. Parce qu'on a eu, on a tout simplement eu peur que le système ne fonctionne plus. Alors, pour bien le comprendre, ce système, il faut revenir à ce que c'était que la banque au 19e siècle. C'est plus simple de le comprendre comme ça. À l'époque où la banque au 19e siècle avait des réserves d'or, elle émettait des billets de banque qui représentaient une certaine somme d'or. L'argent était ce qu'on appelle convertible. Autrement dit, lorsqu'on arrivait avec son billet de banque au guichet de la banque, on pouvait retirer un petit amas d'or. Et déjà à cette époque, on avait estimé qu'on pouvait émettre plus de billets de banque qu'on avait d'or en caisse, puisque tout simplement, bah, on suppose que tout le monde ne va pas venir réclamer son argent en même temps. Sauf que si jamais tout d'un coup, tout le monde vient réclamer son argent en même temps, la banque fait faillite, la convertibilité est suspendue et les billets ne valent plus rien. Hein, donc c'est ça la crise de la confiance monétaire. Et ben, dans le cadre de la monnaie bancaire actuelle, ce n'est pas exactement ça, puisque de toute façon, ce n'est pas en monnaie, en or, pardon, que les banques ordinaires peuvent assurer la monnaie qu'elles créent, mais c'est en monnaie centrale. Et cette monnaie centrale, quand elles viennent à en manquer, c'est-à-dire quand, autrement dit, dans leur réseau bancaire, il y a eu davantage de fuites de monnaie centrale que de rentrées de monnaie centrale dans un réseau bancaire donné, bah, il suffit de réemprunter à une autre banque l'argent qui manque, puisque de toute façon, par définition, s'il y a moins de monnaie centrale dans tel réseau bancaire, c'est qu'il y a dû en avoir plus dans une autre. Mais à partir du moment où les banques n'osaient plus se prêter les unes aux autres, à ce moment-là, il y a eu un risque, effectivement, tout simplement, bah, que les banques ne puissent plus assurer ce à quoi elle s'était engagée, c'est-à-dire à fournir tel et tel paiement à un moment donné. Hein. Donc il y a tous les jours, il y a ce qu'on appelle une compensation qui permet de voir justement où on en est d'un réseau à l'autre pour qu'il y ait toujours un équilibre dans les paiements. Et ben, c'est ça qui a failli se gripper en fait. Et donc c'est pour ça qu'on a commencé à baisser le taux d'intérêt de l'argent et à créer davantage de monnaie centrale. En réalité, c'est ça qui s'est fait par le biais des banques centrales.
Et oui, est-ce que tu rappelles dans... Bon, il y a plusieurs points, évidemment, mais dans, à propos, justement, de cette différence entre la monnaie centrale et la monnaie bancaire, c'est une distinction qui est très importante et qu'en fait, les conspirationnistes ne font pas. C'est-à-dire qu'effectivement, les banques peuvent, par exemple, créditer, faire un prêt à leur... mettons de 50 000 euros au titulaire d'un de leurs comptes, elles peuvent voilà ça elles peuvent le créer de manière c'est mais le problème c'est que si cette personne le titulaire de ce compte vient retirer à la banque les 50 000 euros là par contre les banques la banque va devoir chercher va devoir trouver dans ses réserves les 50 000 euros les 50 000 euros en monnaie centrale. Et c'est ça, ils ne peuvent pas la créer à volonté. Ils ne peuvent la créer que dans une certaine mesure liée à...
Les banques ordinaires ne peuvent pas créer du tout de monnaie centrale. La monnaie centrale ne peut être créée que par la banque centrale. C'est ça l'idée. Et même la monnaie bancaire. Alors la monnaie que les banques créent, elles ne la créent que sous une seule forme, qui est celle en fait des sommes qui sont déposées sur leur compte. Elles ne peuvent pas créer une autre forme de monnaie que celle-là. Et elles le font souvent par le biais de crédits à court terme. En particulier des découverts, mais souvent des crédits à court terme. Alors pourquoi des crédits à court terme ? Ben pour justement minimiser les risques systémiques, c'est-à-dire minimiser le fait que quand quelqu'un ne rembourse pas son crédit, c'est problématique. Donc c'est pour ça que essentiellement la monnaie bancaire est créée sous la forme de crédits à court terme. Et donc cette monnaie bancaire, elle est quand même pas non plus totalement libre. En réalité, les banques sont soumises à des règles et elles doivent avoir sous forme de monnaie centrale des comptes, qu'on appelle des réserves, qui sont crédités en monnaie centrale pour qu'elles puissent effectivement faire face aux fuites de monnaie centrale, on appelle les fuites de monnaie centrale. C'est-à-dire qu'elles puissent payer lorsque les gens viennent, comme tu dis, retirer leur argent. Alors... de manière peut-être plus claire, en prenant un exemple, si j'ai un découvert à ma banque, mettons, de 1 000 euros, vraisemblablement, en réalité, ces 1 000 euros auront été créés par la banque au moment où j'ai ce découvert. Et si à ce moment-là, je veux utiliser mon découvert sous forme de billets de banque et je vais retirer donc de l'argent, je vais retirer des billets de 100 euros, c'est de la monnaie centrale. Autrement dit, la banque a créé de la monnaie bancaire, mais elle doit honorer en monnaie centrale le retrait d'argent. Hein. Donc, ça fonctionne exactement comme à l'époque où il y avait de l'or, encore une fois. Du moment que il y a une partie des clients qui retire de l'argent sous forme de monnaie centrale, pendant qu'une autre partie des clients ramène de l'argent sous forme de monnaie centrale, ça s'équilibre.
Notamment les salaires à la fin du mois, par exemple.
Alors, tout ce qui peut être la forme de la monnaie centrale. Et ensuite, ça s'équilibre. Et ensuite, effectivement, s'il y a un déséquilibre, de toute façon, on peut... Alors, ça s'appelle des opérations de refinancement. On peut emprunter, un réseau bancaire peut emprunter à un autre réseau bancaire ce qui lui manque, ou utiliser ce qu'il appelle ses réserves libres. Enfin, ce qu'on appelle ses réserves libres, s'il a un peu plus d'argent que ce qu'il a obligatoirement sur son compte pour pouvoir créer de la monnaie. Il y a un ratio entre la monnaie que la banque peut créer et les réserves qu'elle possède, donc pour qu'effectivement on ne dépasse pas, c'est ce qu'on appelle justement les règles de prudence, c'est pour qu'on n'aille pas au-delà de... c'est pour que pas que tout le monde vienne prendre son argent en même temps sous forme de monnaie centrale, ce qui déséquilibrerait bien sûr la banque. Et... Et voilà, et ça, c'est un fonctionnement ordinaire de l'économie. Il y a, alors, lorsqu'on rembourse la dette, hein, si, quand moi j'ai une dette de 1 000 euros, mon découvert, lorsque je le rembourse sous forme de monnaie centrale, à ce moment-là, il y a destruction de cette monnaie bancaire qui, en même temps, est recréée sous la forme d'un autre découvert accordé à un autre client. Alors, c'est souvent des découverts aux entreprises. Évidemment, c'est plus les acteurs économiques que les particuliers. Mais enfin, bon, c'est ça, en fait, la création de monnaie bancaire et la destruction de monnaie bancaire en continu. Après, du coup, comme il y a destruction et création en continu, il y a toujours un certain volant de monnaie bancaire qui existe. Et ce volant de monnaie bancaire, il est contrôlé par la Banque centrale, parce que la Banque centrale, c'est elle qui peut décider de combien elle met de monnaie centrale en circulation, ce qui, évidemment, est la contrepartie nécessaire, la réserve nécessaire pour créer de la monnaie bancaire. Elle crée aussi, elle détermine aussi les ratios. Donc, je vais dire que la création monétaire est quand même contrôlée par, justement, les autorités financières que sont les banques centrales. Enfin, que sont les banques centrales et leur tutelle. Et je termine juste là-dessus. Donc, la monnaie bancaire n'est qu'une excroissance, d'une certaine manière, de la monnaie centrale, qui, elle-même, est la monnaie créée par la banque centrale. Mais le mode de création de la monnaie est le même. C'est à chaque fois, la monnaie est une dette de la banque qui est contrebalancée par une créance que la banque possède dans ses coffres et qui est, le pendant de cette dette.
Alors, si je fais maintenant, peut-être pour clarifier pour les auditeurs, le circuit simplement maintenant de la monnaie centrale, parce que je pense que la monnaie bancaire, on l'a relativement bien... bien expliqué, et de toute façon, elle est quand même moins centrale dans le capitalisme, même si elle a un rôle assez important. Donc, partons, plutôt que de partir directement de la création monétaire, partons d'abord de un capitaliste qui veut 100 euros pour acheter de la force de travail, des moyens de production, des machines, des matières premières, etc., etc. Donc, il fait une demande de crédit à sa banque commerciale. La banque commerciale elle-même, soit tout de suite, soit avant, soit un petit peu après, fait elle-même une demande de crédit. Bon, imaginons qu'elle n'a pas les fonds. Elle fait une demande de crédit à la banque centrale. La banque centrale, elle, va, parce que évidemment, on parle de comptabilité, va créer 100 euros. Mais alors, ce qui est assez bizarre, et ce que les conspirationnistes ne comprennent pas très bien, c'est que quand elle crée 100 euros, elle l'inscrit à la fois, c'est le principe de la comptabilité pardon, en partie double, elle l'inscrit à la fois à son actif et à son passif. Donc, d'un côté, à son actif, c'est-à-dire ce qui explique, enfin, globalement, c'est ce qui garantit la valeur de l'argent d'une certaine façon. Elle a un titre de créance de 100 euros, c'est-à-dire qu'on va bien, plus tard, lui rembourser 100 euros. Et donc, du coup, ces 100 euros qu'on a l'impression qu'elle a créés à partir de rien, en fait, ils sont quand même gagés sur quelque chose, c'est-à-dire sur une créance sur l'économie, c'est-à-dire en fait sur de la survaleur future, d'une certaine façon. C'est-à-dire que l'entrepreneur va exploiter sa force de travail, il va transformer ses matières premières et tout ça, il va vendre ses marchandises, hop, il va récupérer 100 euros, il va rembourser en plus l'intérêt et tout ça. Et disons que ces 100 euros donc, sont gagés sur quelque chose. Et puis d'autre part, à son passif, il a quand même le fait que, ça paraît bizarre, mais la banque centrale, d'une certaine façon, a presque une dette envers elle-même, c'est-à-dire que elle a quand même créé 100 euros à partir de rien. Et du coup, ce qui fait que, imaginons que cet entrepreneur va rembourser sa banque, qui va elle-même rembourser la banque centrale, eh bien, comme dans la comptabilité en partie double et tout doit s'équilibrer, eh bien la créance disparaissant, donc l'actif disparaissant, le passif va aussi disparaître. Et c'est pour ça que les 100 euros qui ont été créés vont être d'une certaine façon détruits et vont revenir à zéro. Alors que, évidemment, dans l'explication conspirationniste, on sous-entend qu'en gros, la banque centrale garde les 100 euros et se les met dans la poche, quoi. Ce qui, on pourrait imaginer une forme de capitalisme qui fonctionnerait comme ça, mais on imagine bien que les capitalistes qui ne font pas partie de la banque centrale ne seraient pas très contents quand même qu'il y ait des gens qui puissent se faire de l'argent de cette manière-là, quoi.
Alors, il faut simplement dire que les choses, en particulier les titres sur l'économie, fonctionnent de manière un petit peu plus compliquée que juste la manière dont tu viens de les présenter. Alors, justement, surtout depuis que le dogme libéral a voulu mettre en avant ce qu'on appelle l'indépendance des banques centrales. Et cette idée, justement, qu'il ne fallait pas que la création monétaire soit laissée trop libre, d'une certaine manière, aux politiques, parce qu'ils risquaient de créer trop d'argent. Alors, il faut savoir quand même que pour les économistes classiques, l'argent en tant que tel n'a pas de valeur, et que s'il y a trop d'argent, ça n'a pas d'autres conséquences négatives que ce qu'on appelle l'inflation et le fait que la monnaie perd de sa valeur, enfin de sa valeur, de sa capacité à acheter, disons.
De son pouvoir d'achat.
De son pouvoir d'achat, si on peut appeler ça comme ça, son pouvoir libératoire. Et bien sûr, une autre conséquence qui pourrait être encore plus dramatique, c'est que si l'inflation était trop énorme, on perd de la confiance dans la monnaie elle-même. Donc, l'idée de base pour les libéraux, elle a été de dire il faut absolument que la monnaie, il n'y en ait pas trop, il faut qu'il y en ait ce qu'il faut, en fait, pour que l'économie fonctionne, et il faut qu'on ait confiance en elle. Donc, pour ça, l'idée a été que ces dettes qui sont, enfin, ces créances, disons, parce que, bon, bien entendu, une créance, c'est aussi une dette. Une créance, c'est du côté de celui à qui on doit de l'argent. Une dette, c'est du côté de celui qui doit l'argent. Hein. Donc, les créances, qui sont donc, bien entendu, des dettes pour autrui, donc les créances que possède la Banque centrale, on a voulu, en quelque sorte, qu'elles soient aussi objectives que possible dans le monde du capital. Et qu'est-ce que c'est que l'objectivité dans le monde du capital? C'est le marché. Donc, on a voulu qu'elles passent par les marchés. C'est pour ça que, dans le cas dont tu parlais, le capitaliste qui veut emprunter 100 euros, il a plusieurs manières d'emprunter 100 euros, le capitaliste, mais la manière qui fonctionne le mieux avec la création bancaire, c'est de créer des titres sur ce qu'on appelle les obligations parfois, c'est-à-dire des titres sur sa société, donc qui sont ensuite des titres de créances qui peuvent se vendre, hein, et se racheter, qui font partie d'un marché. Donc il émet des obligations sur le marché. Et ces obligations sur le marché sont donc achetées par des investisseurs, des financiers, qui vont donc lui donner de l'argent qui, lui, va permettre effectivement au capitaliste en question, à l'entreprise en question, d'investir, comme tu le disais. Mais ces titres, donc, vont ensuite s'échanger sur des marchés financiers et, effectivement, pourront éventuellement être rachetés par les banques centrales pour servir de contrepartie à la valeur de la monnaie. Il faut savoir néanmoins que pour les banques centrales, certes, les titres sur l'économie font partie du panier, au même titre que les devises qu'ils ont donc en fait dans leur réserve pour équilibrer effectivement leur comptabilité, c'est-à-dire qu'ils font partie des créances qui équilibrent la monnaie qu'ils émettent, qui est de la dette pour eux. Mais ce qui quand même est l'essentiel, ce sont les titres de dette publique, c'est-à-dire les titres sur les États. Et ça, c'est quand même assez intéressant à souligner, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand même, ce qui, a priori, est la puissance la plus formidable dans le monde du capital et celle qui, a priori, va payer, quoi, au bout du compte, parce qu'il faut que ça paye, c'est ça l'idée, ben, c'est les États. Et pourquoi c'est les États? Parce que les États, contrairement aux entreprises, effectivement, eux, ne créent pas, à proprement parler, de valeur ou de survaleur, si ce n'est peut-être par des entreprises qu'ils contrôlent, mais disons en tant que structure institutionnelle, ce n'est pas leur objectif. Mais par contre, ils en ponctionnent. Ils en ponctionnent par le biais de la fiscalité. Et cette ponction-là, qui peut être très importante, eh bien, elle permet ensuite, effectivement, de donner à ces titres de dette publique une confiance qui est quand même inégalée. C'est-à-dire que, bon, je reviens un petit peu, bien entendu, dans le livre sur ces notations de dette publique, les AAA, qu'on donne à la France ou aux États-Unis. Alors, la France l'a perdue en 2019. Enfin, bref, bon, il y a toute une histoire là-dessus. Mais il n'empêche que, globalement, la France, par exemple, a honoré ses dettes sans discontinuer depuis plus de 200 ans. Ce qui, d'ailleurs, était une rupture avec ce qui se faisait sous l'Ancien Régime, où c'était quand même plutôt l'habitude était de ne pas honorer les dettes publiques. Alors maintenant, par contre, on les honore scrupuleusement. Donc, puisque ces dettes publiques sont honorées scrupuleusement, eh bien, effectivement, le fait d'avoir ces titres de dettes publiques dans, on va dire, l'actif des banques centrales, leur permet de dire, bah, vous voyez, la monnaie qu'on a émise a bel et bien un répondant. Et ce répondant, c'est tout simplement la capacité pour l'État de ponctionner la valeur future, laquelle valeur, pour pouvoir être ponctionnée, doit quand même être produite, évidemment, par le système capitaliste. Donc, et ça, c'est un point sur lequel j'insiste beaucoup, parce que par rapport à tous les gens qui disent « oui, la monnaie, c'est la souveraineté, c'est l'État, c'est ceci, c'est cela », bon, bah, certes, il y a bien entendu des règles juridiques qui sont émises par les États pour la création de monnaie, mais il n'empêche que ce qui donne la valeur de la monnaie, c'est pas l'État en tant que souverain, parce que ça, ça marche pas. On l'a vu à l'époque des assignats, on l'a vu dans plein de cas, hein, que c'est pas en fusillant quelques banquiers qu'on fait remonter le cours des devises. Alors on peut le faire pour calmer les révoltes populaires et pour faire des exemples, mais en réalité ça change rien. Non, ce qui permet à l'État d'être le garant de la valeur de la monnaie, c'est sa capacité à ponctionner la création de valeur par le capitalisme, et donc ça suppose quand même que le capitalisme fonctionne, évidemment. Et donc, de ce point de vue-là, l'État, il n'est pas souverain. Il est souverain, certes, mais il n'est pas souverain parce que ce serait lui qui donnerait cette valeur. Il ne la donne pas. Il la ponctionne. Mais ce qui la crée, c'est autre chose. C'est le système économique. Et on en revient à ça, bien entendu. C'est en réalité le travail, le temps de travail coagulé, l'exploitation de la force de travail. Et donc ça, c'est très important à comprendre parce que, certes, le rôle de l'État est central. Il est central, mais il n'est pas comme on le présente habituellement. C'est-à-dire, il n'est pas central parce que l'État représente le bien commun, etc. Non, il est central parce que l'État représente la force de coercition qui peut se permettre de prendre une partie de cette valeur de manière tout à fait arbitraire par la fiscalité. Voilà, donc ça, c'est le fonctionnement actuel de la monnaie. Donc la monnaie est une dette sur de la dette. Ce qui est la contrepartie de la monnaie, ce sont donc des titres sur l'économie, des devises, donc autrement dit dette d'autres banques centrales ou des titres sur la dette publique. Et évidemment, cette forme un peu particulière de la monnaie contemporaine, un peu étrange, on va dire, comme tu dis, elle a d'une part inspiré beaucoup de conspirationnistes, mais elle m'a aussi, moi, posé une question, surtout par rapport justement à la théorie de Marx, qui insiste beaucoup sur le rôle de la monnaie marchandise.
Oui, et juste avant de passer justement à cette partie historique, il me semblait important de un peu de conclure sur la création monétaire contemporaine. Donc, non seulement les banques commerciales, mais aussi les banques centrales ne créent pas la monnaie de manière arbitraire et de manière déconnectée, puisque cette monnaie centrale, puisque la monnaie centrale doit être à un moment doit d'une part et la création de monnaie centrale est contrebalancée par des titres sur l'économie. Soit des titres sur d'autres économies, donc c'est les devises, soit des titres sur des entreprises, donc ça c'est les créances sur l'économie, les créances commerciales, soit des créances sur l'État. Et c'est intéressant justement de montrer que c'est plus vraiment, maintenant c'est plus l'or qui est finalement le garant de la valeur de la monnaie, mais l'État, et d'où l'importance effectivement de la crise, effectivement, les crises de la dette de l'État. Et ça peut paraître un peu paradoxal parce que justement dans l'économie, chez les économistes bourgeois, l'État a quand même un rôle un peu extérieur à l'économie d'une certaine façon. Mais c'est oublier que effectivement ce qui caractérise quand même l'État, c'est son droit de fait, sa capacité à ponctionner de la survaleur, mais pas du coup pas tellement de la survaleur un peu particulière, parce que évidemment les créances de telle entreprise ou de telle entreprise, c'est avant tout leur capacité de créer de la survaleur dans tel secteur, tel marché, telle niche, alors que justement la capacité de ponctionner de l'État, elle n'est pas le reflet entre guillemets de tel marché, de telle niche, mais alors là pour le coup du bon fonctionnement de l'économie capitaliste de manière générale, enfin disons au moins à un niveau national, et je finis là-dessus. Et donc du coup, ce qui garantit la valeur de l'argent, du coup, c'est les dettes de l'État, et du coup, indirectement, c'est quand même la santé de l'économie nationale, d'où l'importance de faire des plans de relance, etc., etc.
Oui, et je voulais juste dire une chose, une petite remarque sur ce que tu dis, mais pour rebondir. Alors, les économistes bourgeois, les économistes bourgeois, il y en a de deux sortes. Il y a les économistes bourgeois de gauche et les économistes bourgeois de droite. Et c'est vrai qu'effectivement, les économistes bourgeois de gauche donnent quand même à l'État une certaine valeur, un certain rôle. Mais précisément, je pense qu'ils ont tort sur un certain nombre de choses. Et à l'inverse, les économistes bourgeois de droite disent aussi des choses d'ailleurs qui sont en partie vraies, et ils ont tort sur un certain nombre de choses aussi. Alors si on prend un peu des uns et des autres, on arrive à retrouver quelque chose d'assez, qui fonctionne à peu près. Mais alors je vais donner un seul exemple, parce qu'il est assez intéressant, c'est justement sur l'indépendance des banques centrales. Je crois que c'est Hayek, donc un économiste néolibéral et tout ce qu'on veut, bref, qui disait finalement pour la monnaie, il n'y a pas besoin d'État, il faut que la monnaie soit donnée à des banques privées, il faut que ça soit elle qui crée de la monnaie, etc. Dans le système de Hayek, ça ne marche pas du tout, parce que justement, en réalité, la contrepartie de la monnaie que ces opérateurs privés pourraient créer, cette contrepartie ne sera jamais suffisante pour inspirer la confiance réelle qu'il faut avoir quand même dans cette monnaie. Et seul un État a cette puissance, et c'est ça qu'un Hayek ne comprend pas. Mais à l'inverse, ce que effectivement les économistes de gauche vont croire, c'est que vu qu'il faut la puissance de l'État, c'est donc la souveraineté, le bien commun, le je sais pas trop quoi, qui sont nécessaires. Mais non, c'est pas ça. C'est juste la puissance coercitive. Et donc, les uns comme les autres voient une partie de la chose, mais aucun d'entre eux n'arrive à voir la totalité de ce qui est nécessaire. Oui, il faut un État pour garantir la monnaie, mais non, ça ne signifie pas que la monnaie est un bien commun, un truc démocratique ou je ne sais pas trop quoi. C'est quand même un instrument de coercition au service, évidemment, des capitalistes essentiellement. Et voilà donc, et là-dessus, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, un point intéressant, c'est que donc la conception de l'indépendance des banques centrales fait que, du coup, elles étaient censées n'émettre de monnaie centrale qu'en contrepartie donc d'obligations d'État, enfin de titres sur l'État, qu'elles auraient elles-mêmes en réalité obtenu sur le marché. C'est-à-dire que quand les acteurs financiers ont besoin de se refinancer, donc ils ont besoin de monnaie centrale, eh bien ils s'adressent à la banque centrale en disant « voilà, j'ai besoin de monnaie centrale, et en échange, je vous donne ces titres voilà, qui sont ces titres donc sur l'économie ou sur l'État ». Et donc, d'une certaine manière, il n'y a pas un rapport direct entre l'État et la banque centrale comme ça a existé justement avant les années 70. C'est-à-dire que l'État ne dit pas directement à la banque centrale « Bon, tenez, je vous donne tant d'obligations, vous créez tant d'argent en échange ». C'est un peu plus compliqué que ça. Ça passe par la médiation des opérateurs financiers. Parce que, du coup, se sont dit les économistes libéraux « Ben voilà, l'État ne sera pas conduit à créer de manière débridée de la monnaie et beaucoup trop de monnaie. Voilà, ça passera par les opérateurs financiers, donc par des capitalistes qui ont la tête sur les épaules, qui ont leurs intérêts en vue. Et donc, du coup, ça sera plus objectif. Mais ça ne change rien, au fond. Ça ne change rien, c'est-à-dire que c'est quand même de la monnaie qui est adossée à un titre d'État, donc qui est quand même adossée à la garantie de l'État, d'une certaine manière. Et d'autre part, à partir de la crise de 2008, on a été obligé d'assouplir profondément ces règles, de faire ce qu'on appelle du quantitative easing. Bon, alors je repasse sur le détail de comment ça se fait, mais disons que en gros, les règles qui avaient été fixées justement pour ne passer que par le rachat de ces titres d'État par le biais des marchés, eh bien, elles ont été totalement assouplies et elles ont permis, en réalité, depuis une dizaine d'années, de créer des masses considérables de monnaie centrale pour, justement, à la fois empêcher les banques ordinaires de s'effondrer, les institutions financières diverses de s'effondrer, les refinancer en permanence et essayer aussi de relancer un petit peu le fonctionnement économique global. Le problème étant, comme on dit maintenant, qu'on est dopé à ces taux bas et à cette création continue de monnaie centrale et qu'il va falloir réussir à un moment ou à un autre à changer ça, parce que le risque au bout du compte, bien entendu, c'est que petit à petit, la confiance dans cette monnaie créée de manière débridée s'effondre totalement.
Oui, effectivement. Et c'est du coup ce qui fait que la relance, entre guillemets, du capitalisme depuis 2008 par une création massive de monnaie centrale sous forme de crédit, qui est aussi analysée dans la grande dévalorisation de Trenkle et Lohoff, c'est que, au bout du compte, ça fait quand même peser le risque, non pas tellement si c'était uniquement du crédit privé, de la finance privée, de finir dans une nouvelle crise financière. Mais là, puisque c'est la banque centrale qui est au cœur de ça, c'est la monnaie centrale qui est en jeu, c'est carrément pas seulement une crise financière, c'est-à-dire tout un tas de titres, que ce soit des actions, des obligations, des produits dérivés, qui finissent par va voir leur valeur s'effondrer et engendrer une nouvelle crise financière comme en 2008 où il y a eu 55 000 milliards de titres qui avaient, enfin l'équivalent de 55 000 milliards de titres qui ont été détruits, enfin qui ne valaient plus rien. Mais là, c'est carrément la valeur de l'argent elle-même qui est menacée.
Oui, oui. Ah bah oui, c'est la crainte en réalité de tout banquier central qui se respecte, c'est un effondrement de la monnaie. Qui a historiquement existé à plusieurs reprises. J'ai parlé tout à l'heure des assignats, c'est un bon exemple, mais on a aussi l'effondrement du mark, par exemple, au début des années 20 en Allemagne. Hein, on connaît l'hyperinflation. Et puis, ça a existé dans un certain nombre de pays, même de manière beaucoup plus récente. Je ne sais pas, crise du peso, etc. Enfin, ce sont des choses qui, arrivent régulièrement dans l'histoire. Simplement, quand ça arrive dans un pays même important, mais disons de... quand même du second ou troisième cercle des pays capitalistes, c'est dramatique pour la population du coin, mais ça ne remet pas en cause le système mondial. C'est vrai qu'un effondrement du dollar, ça aurait des conséquences, ou même de l'euro, hein, évidemment, bien plus énormes. Et c'est ça qui est en tête, hein, évidemment. Hein. C'est pour ça que ces questions sont des questions extrêmement délicates. Hein. C'est parce que le risque, c'est de voir une sorte de collapse comme ça, généralisé, pas seulement de certains titres financiers, comme tu le dis, et donc pas seulement de pertes financières, mais une crise systémique, un effondrement du système financier mondial et un effondrement de la valeur de la monnaie au niveau mondial. Et c'est ça, au fond, qui fait peur tant au gouvernement qu'aux banquiers centraux depuis une dizaine d'années, mais qui est toujours présent dans leur tête, hein, parce que ça a toujours été un problème, en réalité, possible dans le monde du capital.
Et qui est un problème d'autant plus d'actualité que, les cycles comme celui du Fordisme, qui voilà, était censé assurer 20 ans de croissance avec des investissements initiaux, plein de porteurs, plein de nouveaux secteurs qui se développaient, l'automobile, l'électroménager, etc., etc., un emploi massif de la force de travail et qui garantissait une croissance capitaliste pour 20-30 ans. On n'est plus dans des cycles comme ça. Là, ça fait même pas 10 ans, enfin, ça fait 8 ans à peine, 5-8 ans qu'on est dans un nouveau cycle. Et déjà, il y a des signes d'affaiblissement de ce cycle. Donc, il y a eu l'affaire de la Chine l'été de 2016. La Chine qui avait fait le plan de relance capitaliste le plus important de l'histoire et qui malgré tout commence à plafonner, qui atteint un niveau d'endettement qui commence à être analogue à celui des États-Unis. Et donc du coup, finalement, cette crainte d'un effondrement de la valeur de la monnaie, c'est pas seulement parce que maintenant c'est la monnaie centrale qui est en jeu, qui et pas seulement des bulles financières particulières. Pas seulement la monnaie centrale dont la valeur devient de moins en moins sûre, c'est aussi parce que ce qui est censé justement assurer la valeur de cette monnaie centrale, c'est-à-dire les titres de dette sur lesquels c'est gagé, et donc in fine sur l'économie, cette économie ne se relance pas, ou elle se relance pas suffisamment bien, ou pas très bien, ou...
Oui, non, mais bien sûr. Alors, le point essentiel, c'est que la crise financière n'est pas que financière, bien sûr. Elle est une crise de l'économie capitaliste en général. Donc ça, c'est évidemment ce que je développe dans Crise, et avec aussi les raisons pour lesquelles il y a des crises dans l'économie capitaliste en général. Et c'est vrai que la finance existe depuis les débuts du capitalisme, bien entendu, et même d'ailleurs avant le capitalisme comme mode de production. Mais et le développement de la finance et des instruments financiers a accompagné, ça va de soi, le développement du capitalisme industriel. Depuis les années 70, il y a ce qu'on appelait une financiarisation, qui est effectivement un développement de ces instruments financiers, j'allais dire encore plus d'une certaine manière par rapport à la période précédente. Et ce développement avait pour cause justement la crise du capital à ce moment-là, et a accompagné sa restructuration, mais donc était tout à fait nécessaire, hein, il était absolument nécessaire à ce moment-là, effectivement, qu'il y ait un développement de cette finance mondiale qui permettait justement aux capitaux de se balader d'un bout à l'autre de la planète de manière assez simple pour pouvoir s'investir dans toutes sortes de pays où une main-d'œuvre beaucoup moins chère et aussi moins qui permettait à la fois de baisser le coût de la manœuvre et de contourner les résistances prolétariennes et ouvrières dans certains pays capitalistes avancés. Donc tout ça a été un ensemble nécessaire. Et donc le développement de la finance à ce moment-là a été, j'allais dire, la solution, mais aussi le problème de cette période-là, et que cette solution-problème a commencé effectivement à nouveau à se gripper depuis une dizaine d'années. Bon, voilà, ça, c'est évidemment pas un problème en soi de monnaie, c'est pas un problème en soi de finance, c'est un problème d'économie globale, de rapport social capitaliste global, dans lequel et les contraintes, on va dire, spécifiques du fonctionnement du capitalisme et les résistances prolétariennes et ouvrières et tout ce qui se mêle à tout ça, entrent dans une sorte d'équation globale mondiale complexe, sur laquelle on pourrait revenir, mais qui font que, bien entendu, les problèmes financiers et monétaires ne sont que la traduction ou que l'apparition dans un domaine spécifique de cette réalité globale.
Oui, et donc je pense que c'est important de, voilà, de rappeler aujourd'hui les liens entre la création monétaire, l'argent, la finance et le capitalisme de manière générale. Donc on a donné là, je pense, une vue d'ensemble qui est évidemment approfondie dans ce livre, aussi hein, dans la grande dévalorisation de ces rapports aujourd'hui. Mais évidemment, ces rapports, qui aujourd'hui sont en crise d'une certaine façon, n'ont pas toujours. Ont toujours existé. Mais sous des configurations évidemment différentes et qui peuvent remonter, évidemment, sous des formes très très différentes avant le mode de production capitaliste. Pour revenir, un exemple que je connais bien, c'est l'essor historique du capitalisme anglais. C'est évidemment le fait que, en même temps qu'émerge le capitalisme en Angleterre au XVIIe et au XVIIIe siècle, donc c'est la thèse notamment de quelqu'un comme Robert Brenner ou d'Hélène Mackinswood. Donc on va pas discuter ici, c'est pas tellement l'objet. Mais évidemment, c'est pas la finance, elle n'est pas au XXe siècle, elle n'est pas au milieu. Et en même temps qu'il y a cette expropriation massive de la paysannerie, la formation de la triade capitaliste, le propriétaire capitaliste, le fermier capitaliste et les salariés agricoles, en même temps qu'il y a déjà les germes de l'industrialisation, qu'il y a un développement très, très fort du marché en Angleterre, il y a évidemment ce qu'on appelait la révolution financière en Angleterre, c'est-à-dire la première véritable banque centrale capitaliste, la Banque d'Angleterre, en 1695, et quelque chose de... Enfin voilà, c'est pour dire que même déjà au niveau de l'émergence du capitalisme, la question de la création monétaire, voilà, par une banque centrale qui crée une monnaie unique, parce qu'on rappelle quand même que dans l'Ancien Régime, notamment en France, il n'y avait pas une monnaie. Il y en avait énormément de monnaies. Il y a une monnaie royale, mais qui est utilisée principalement par un nombre quand même relativement faible d'acteurs. Et justement, dès l'émergence du capitalisme, cette imbrication entre la création monétaire, l'argent, la finance et le système global se fait. Et alors maintenant, du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment est-ce que ça se passe à l'époque justement de Marx ?
En fait, au XIXe siècle, il y a une chose qui s'est imposée, qui est ce qu'on appelait à l'époque l'étalon or, ou en tout cas le fait que effectivement la monnaie qui était émise par les banques avait comme contrepartie une certaine quantité de métal précieux. C'était pas quelque chose de totalement évident. En vrai, il y a eu des débats sur justement est-ce qu'il fallait ou pas qu'il y ait ce modèle d'étalon or, et aussi sur le rapport qu'il pouvait y avoir entre les réserves en métal précieux que les banques pouvaient posséder et combien de billets de banque elles pouvaient émettre, et s'il fallait un monopole ou pas, justement, de certaines banques pour émettre des billets. Enfin bon, en réalité, ça s'est pas fait, j'allais dire, de manière comme ça du jour au lendemain. Ça a été un processus historique qui a abouti à ça, mais qui, je pense, a été nécessaire au moment du capitalisme industriel, au moment où il s'est développé, parce que justement, dans les siècles qui avaient précédé, alors que même les instruments financiers déjà assez complexes avaient été inventés par des banquiers italiens ou par des, les, les orfèvres, enfin bon, je veux dire, il y avait déjà beaucoup de choses qui existaient, de circulation des faits de créance, etc. Et il y avait aussi la mauvaise habitude des rois d'emprunter, pas rembourser. Enfin bon, voilà, il y avait beaucoup de choses qui intervenaient et la nécessité d'avoir en réalité des instruments financiers, on va dire, fiables. Hein, sinon, ça n'a pas de sens hein, d'investir sur des années dans de la production industrielle si du jour au lendemain, tout peut être ruiné par ce qu'on appelait une mutation monétaire sous l'ancien régime. Donc la nécessité en réalité d'avoir des instruments monétaires fiables a imposé le recours à l'étalon or, je pense. Et c'est pas pour rien que le franc germinal, par exemple, hein, celui qui a été créé par Napoléon, a vu sa valeur constante jusque pendant tout le XIXe siècle. Parce qu'effectivement, on a réussi à ce moment-là à créer au début du capitalisme industriel proprement dit des instruments monétaires fiables. Et c'était ça l'idée. Hein. C'était la confiance qu'on pouvait leur accorder et le fait que ces instruments puissent perdurer dans le temps.
Oui, je voulais justement faire un point historique très rapide là-dessus. Mais parmi les théories conspirationnistes sur la finance, il y a notamment cette idée de la création de la Banque de France, donc qui serait le fruit d'un complot de financiers franco-suisses, en 1800 sous Napoléon, alors que de manière plus logique et plus structurelle. La création de la Banque de France par justement ce groupe de financiers obéissait quand même à la rationalité plutôt par Napoléon que pour financer ces guerres, financer de manière générale le capitalisme naissant en plein développement en France, on ne pouvait plus revenir au système de l'ancien régime où c'était l'arbitraire souverain. Je ne rembourserai pas mes dettes, désolé les amis. Et c'est d'où la création d'une Banque de France qui était sous le contrôle directement des banquiers qui, eux, allaient pouvoir financer l'économie française.
Totalement. Hein. C'est vrai que la Banque de France, à l'origine, n'était pas publique. Hein. C'est vrai qu'elle c'était une banque. C'était la banque des banquiers, en effet. Mais c'était une rationalisation nécessaire pour être certain que tout le monde obéisse aux mêmes règles, que le système bancaire soit effectivement régulé, comme on dirait maintenant. Et donc, c'est pas du tout... Enfin, c'est un complot. C'est-à-dire que oui, il y a certes des gens qui se sont... en l'occurrence, de grands banquiers qui se sont réunis sous... en accord évidemment avec l'État qui a accordé donc qui a donné donc ce privilège d'émission de la monnaie, mais tout ceci est une parfaite rationalité capitaliste et économique et c'est absolument pas quelque chose d'aberrant ce qu'ils ont fait. Bien au contraire, ils ont fait quelque chose de tout à fait logique dans le cadre du développement du capitalisme de cette époque. Et donc à cette époque, donc la banque émet des billets de banque, elle émet de la monnaie. Et elle a en contrepartie de l'or. Et cet or, il va être analysé effectivement par Marx comme une marchandise. Et à raison, puisque, après tout, un métal précieux... Je vous rappelle que la marchandise, l'utilité de la marchandise, en soi, c'est pas... quelque chose, comment dire, d'objectif. Hein, je veux dire, peu importe à quoi la marchandise est utile du moment qu'elle répond à un besoin. Ce qui compte, c'est comment est-ce qu'on fait pour l'obtenir. Donc, en l'occurrence, le métal précieux, il est précieux parce qu'il est difficile à extraire, parce qu'il est rare, etc. Donc, en tant que marchandise, ça fonctionne tout à fait. Donc, va dire Marx, finalement, la monnaie est elle-même une marchandise. Donc, elle possède en elle-même... la valeur qu'il a fallu pour la produire, donc sa valeur en termes de temps de travail finalement, et c'est ça qui permet à une marchandise particulière de devenir ce qu'on appelle un équivalent général, c'est-à-dire l'équivalent de toutes les autres marchandises, les marchandises ne pouvant être équivalentes qu'entre elles, et donc du coup une de ces marchandises, l'or devient la monnaie, mais les billets de banque qui sont de l'argent signe ne font que représenter cette monnaie, cette marchandise qu'on va évidemment, ça dès le Moyen-Âge, on l'avait compris, que déplacer des sacs d'or à tout bout de champ, ce n'est pas une bonne idée. Donc autant les laisser dans des coffres et avoir des bouts de papier qui en représentent la valeur. Et donc effectivement, même si l'argent qu'on manipule au XIXe siècle, c'est des billets de banque, il n'empêche que ces billets de banque représentent une valeur en termes de marchandise qui est celle du métal précieux. Et ceci restera vrai tout au long du 19e siècle, les billets de banque, la monnaie est convertible, comme on dit, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut se rendre dans la banque pour obtenir en échange une certaine quantité d'or. Et qui plus est, il y a, ça je l'ai dit tout à l'heure, un certain décalage entre la monnaie en circulation et l'or qui est détenu par les banques, puisqu'on suppose que tout le monde ne va pas venir retirer son or en même temps. Mais ce décalage calculé est considéré simplement comme une sorte d'extension, en quelque sorte, du phénomène, mais ne remet pas en cause l'idée que, fondamentalement, la monnaie est une marchandise. Or, ceci va changer, en gros, au XXe siècle, hein, entre 1914 et 1971. Enfin, peu importe les détails, on passe par... un système fondé sur l'or, uniquement un système fondé sur des devises elles-mêmes convertibles en or. La dernière devise convertible
Or-dollar,
en
or, voilà.
C'est le dollar. Quand le dollar n'est plus convertible, que c'est
71.
Quelque chose qui est reconnu, mais ça faisait quelque temps qu'en fait il n'était plus vraiment, le système en lui-même ne peut plus être considéré comme étant fondé sur une monnaie marchandise. Je cite d'ailleurs Keynes au début du chapitre... qui s'appelle Argent pas cher, ouais, c'est ça, et où je dis hein, que je rappelle que Keynes a dit ainsi donc, voici enfin révolu le long règne de la monnaie marchandise. Keynes dit ça dès les années 30. Bon, il anticipe un petit peu sur, on va dire, le moment formel, mais il avait bien entendu raison. Oh, c'est un processus qui a pris tout le 20e siècle au fond, mais qui fait que la monnaie marchandise a été remplacée par l'argent dette, c'est-à-dire celui que j'ai, dont on a exposé tout à l'heure la création, la manière dont il est créé. Alors, ça, moi, ça m'a, en tant que marxiste, ça m'a toujours posé problème, par exemple. Je me souviens, quand j'ai lu pour la première fois Le Capital, je me disais, bah, je comprends très bien la position de Marx, qui consiste à dire que, effectivement, pour que considérer que la valeur se trouve dans la marchandise et n'est pas quelque chose de purement subjectif, de purement qui apparaît dans le marché, mais que c'est dès la production qu'elle est là, je comprends pourquoi l'équivalent général doit lui-même être une marchandise. Parce que les marchandises s'échangent contre d'autres marchandises. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que ce système a changé au XXe siècle? Et c'est aussi en partie parce que je ne trouvais pas de marxiste qui avait donné une réponse intéressante, ou en tout cas qui me semblait valable à cette question. Alors, je ne les connais pas tous, il y en a peut-être qui l'ont fait. Hein. Désolé pour ceux que je n'aurais pas connus. Mais en tout cas, moi, comme je ne la trouvais pas, cette réponse, c'est vrai que j'ai aussi écrit Crise pour l'expliciter d'une certaine manière, pour la découvrir. Et en gros, alors bien entendu, dès le 19e siècle, Marx lui-même et les économistes de l'époque, alors les autres sont des économistes, Marx est un critique de l'économie, mais il a bien entendu aussi étudié et analysé ce que ceci disait. Donc pour lui, comme pour d'autres, déjà évidemment, il existait au 19e siècle de l'argent dette, et il existait ce qu'il appelait de l'argent signe. Alors l'argent dette, bah, tout simplement parce que c'est... quelque chose qui a fonctionné dès le Moyen-Âge, hein, le fait qu'on s'échange des créances et qu'elles servent de moyen de paiement, ça c'est quelque chose de très ancien. Donc effectivement, le fait qu'il y ait dans la finance des créances qui circulent comme ça, ce qu'on considérait comme de l'argent dette, était tout à fait connu au 19e siècle, était connu de Marx. Simplement, ça lui semblait être une extension de quelque chose qui, à un moment ou à un autre, devait se régler par le retour, en quelque sorte, de la vraie monnaie, de la monnaie marchandise. Et donc, il y avait ce qu'il appelait le reflux de l'argent. Donc, alors, la spéculation, des fois, faisait qu'effectivement, ça s'emballait, mais enfin, ça finissait toujours par revenir à un certain équilibre. Quant à l'argent signe, il le voyait essentiellement comme de l'argent de l'État, qui aurait pu circuler à l'intérieur d'un espace monétaire. Et tant qu'on reste dans la circulation au sein de cet espace fermé, ça fonctionne. Mais le problème, c'est dès qu'on essaye d'aller au-delà, évidemment. Alors, ça existe. Simplement, pour lui, ce sont des choses secondaires, un peu transitoires, d'une certaine manière. Et ce qui est central, c'est la monnaie marchandise. Ben, tout simplement, au XXe siècle, le secondaire est devenu principal. Et le secondaire est devenu principal sans, à mon avis, que ça remette en cause la théorie de la valeur travail. Simplement, comme moi, alors là, on en a parlé dans la première partie de l'émission, mais j'ai dit, moi, je l'aborde par le biais de la circulation pour dire qu'au fond, c'est la généralité de la circulation qui permet de parler de la valeur travail. Mais à partir du moment où on a dit ça, eh ben, on peut dire que la généralité de la circulation permet, somme toute, que la monnaie soit autre chose qu'une marchandise. Elle permet que la monnaie soit, au fond, de l'argent dette. Du moment que la circulation est ininterrompue, qu'elle continue tout le temps d'une certaine manière, ça n'empêche pas cet argent dette de représenter quand même de la valeur, effectivement, comme temps de travail coagulé dans la production. Du moment que, à tout instant, il y a une circulation sans fin, d'une certaine manière, et que la dette que représente l'argent soit d'une certaine manière remboursée par la ponction qu'on fait sur la valeur coagulée dans la marchandise. Hein. Je vous ai dit de manière un peu abstraite, mais l'idée, c'est que tant que ça continue à circuler et à fonctionner, au fond, ça marche. Et ça marche, simplement, ça suppose que la dette en question, qui a la valeur de l'argent maintenant, est au fond une dette sur de la valeur créée dans les marchandises, de la survaleur créée dans la marchandise, non seulement, on va dire, entre guillemets, déjà créée, ce qui serait ce qu'est la monnaie marchandise, mais au fond, à créer dans le futur, ce qui serait l'argent dette. Donc, autrement dit, à partir du moment où la circulation de valeur est ininterrompue et infinie, on a pu passer d'une monnaie dont la valeur est fondée sur de la... dont le pouvoir est fondé sur de la valeur de marchandises, de la valeur travail déjà créée, à de la monnaie dont le pouvoir est fondé sur de la valeur marchandise à créer plus tard. Mais finalement, ça revient un peu au même. Et ça revient au même, et ça c'est important de le dire, si on passe de l'un à l'autre au XXe siècle, ce n'est pas pour des raisons de complot, c'est fondamentalement parce que de toute façon, il n'y aurait jamais eu suffisamment... de métal précieux pour tout simplement le besoin de monnaie nécessaire pour faire fonctionner cette économie, genre pour une raison, j'allais dire, très technique. Et puis aussi parce que, au fond, puisque ça fonctionne, à partir de là, il n'y a pas de raison que ça ne se mette pas en place. Et puis surtout, à partir des années 70, à partir du moment où il a fallu que les capitaux aussi puissent circuler librement partout dans la planète, donc il fallait aussi des gens qui soient un peu spécialistes de la manipulation et du déplacement de ces capitaux, etc. Et donc, du coup, c'était tout simplement quelque chose qui était nécessaire au fonctionnement du capital à un moment donné pour pouvoir se développer. Sachant que le problème de la crise du capital, c'est qu'il est un déséquilibre dynamique, qu'il faut que sans cesse il continue d'une certaine manière et qu'il aille toujours plus loin et de manière plus générale, qu'il mette en œuvre toujours des forces productives plus importantes pour justement ne pas sombrer. Et donc pour pouvoir faire ça, il fallait développer et les capacités monétaires et les instruments monétaires et les instruments financiers et que seul ça permettait au capitalisme de continuer à exister. Donc c'est, oui, il y a un complot, mais c'est un complot capitaliste. C'est-à-dire que c'est pas un complot, c'est un rapport social.
Oui, effectivement, du coup, si on reprend l'histoire de la création monétaire en lien avec l'histoire aussi de la finance et du capitalisme, ce qu'on peut observer, c'est, disons, du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, c'est des cycles de crise des cycles d'expansion. Et pendant ces cycles d'expansion, il faut, pour les commencer, ces cycles d'expansion, suite par exemple à la crise de 1857, à la crise de 1877, etc., etc., il faut, puisqu'on ne peut plus se contenter simplement d'avoir un petit peu d'argent de côté, d'acheter juste de la force de travail, mais par exemple pour commencer, disons à la fin du 19e siècle, un nouveau cycle de valorisation fondé sur l'industrie automobile, la chimie et l'électricité. On ne peut pas se contenter juste de la valeur passée, mais il faut au contraire une importante création monétaire, une importante création de crédit, alors que par exemple Trenkelhoff appelle le capital fictif, et qui représente une importante anticipation de survaleur, alors plus simplement une petite anticipation, mais une anticipation de survaleur de plus en plus importante, pour permettre simplement ces investissements gigantesques initiaux qui vont permettre un cycle de valorisation capitaliste. Et du coup, évidemment, quand on passe au cycle suivant, donc pas celui de la fin du 19e siècle, mais celui, par exemple, des années 20, là, on passe déjà à, disons, un besoin de monnaie et de crédit beaucoup plus important. Et alors là, quand on passe carrément sur le cycle de 1945, le cycle des 30 Glorieuses, où il faut généraliser le Fordisme et le Taylorisme, il faut évidemment encore plus de monnaie et de capital fictif entre guillemets au départ et évidemment on reviendra un petit peu peut-être sur les années 70 et 80 où ça change un petit peu, mais enfin en tout cas on pouvait, contrairement à ce que par exemple, ça c'est une théorie qui est assez en vogue dans l'extrême droite, c'est-à-dire finalement on aurait dû rester à la monnaie or parce que ça éviterait que les banquiers juifs etc. se l'approprient. La dynamique du capitalisme faisait que c'est absolument impossible de rester uniquement sur la monnaie d'or, avec un taux de réserve de 100% et tout ça, et que la dynamique du capitalisme aurait été stoppée net par ce genre de pratiques conservatoires, quoi.
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, avant qu'on, enfin en off, pendant la pause, c'est que c'est vrai que cette notion de capital fictif me gêne un peu à cause du terme qui a été choisi, c'est-à-dire de l'adjectif fictif, de fiction. Parce que d'une certaine manière, ce capital, c'est pas plus. Si on suppose qu'il est fictif, c'est qu'il n'y en aurait rien qui serait plus réel. Or, le capital, c'est le capital. Il est soit entièrement fictif, soit entièrement réel. On peut avoir les deux positions. Mais je trouve difficile, moi, d'en distinguer l'un d'un autre. Par contre, effectivement, le capital et même l'argent comme anticipation de valeur et de survaleur à extraire, ça, c'est une réalité, effectivement, du monde du capital actuel. Et. Effectivement, et c'est là, c'est un peu ambivalent, parce que d'une certaine manière, c'est pas un problème pour le capital que la monnaie soit fondée ou basée sur de l'anticipation de valeur, parce que de toute façon, le capital est anticipation de valeur, par définition. C'est-à-dire que ce qui fait le capital, par définition, et justement, c'est une de ces nécessités structurelles dues au fait qu'il y a une contrainte, enfin une, on va dire une chute tendancielle du taux de profit qui fait que de toute façon, il faut toujours mettre en œuvre de plus en plus de moyens de production. Il faut de toute façon de plus en plus un accroissement. Il faut un déséquilibre dynamique. Donc d'une certaine manière, le capital lui-même ayant besoin, même si la monnaie n'était que marchandise, le capital aurait quand même besoin de ce déséquilibre dynamique. Il aurait quand même besoin tout le temps de créer davantage de valeur et de survaleur pour continuer à fonctionner. Donc, du coup, que sa monnaie soit fondée sur cette anticipation ou pas, c'est pas si fondamental que ça, parce qu'en réalité, c'est lui qui fonctionne comme ça. C'est lui qui fonctionne dans son ensemble comme ça. C'est juste que dans le cadre de la monnaie, d'une certaine manière, ça se voit peut-être un peu plus. Surtout maintenant, effectivement, la forme qu'elle a prise. D'où, effectivement, tous les imbéciles conspirent qui rentrent là-dedans en ne voyant que cet aspect-là, alors que cet aspect-là est la conséquence du fonctionnement du capital dans son ensemble et que c'est le fonctionnement du capital dans son ensemble qui induit ça. Donc, certes, ce déséquilibre dynamique est un problème quand même pour le capital parce que ça veut dire qu'il faut tout le temps qu'il continue sans cesse de s'accroître, qu'il continue évidemment sans cesse aussi d'exploiter et d'opprimer les populations. Alors, elles peuvent se révolter, elles le font, mais il peut continuer à gagner la lutte des classes. Mais il y a aussi une autre limite qui est la limite, tout simplement, je l'ai évoqué tout à l'heure, de cette planète, qu'à un moment donné, on a beau mettre en œuvre un maximum de ressources naturelles pour produire, ben on finit par les épuiser, qu'il y a donc des limites internes et externes qui sont évidentes. Et c'est ce que je dis à un moment en parlant du capitalisme, hein, que c'est un vélo lancé à toute vitesse qui ne peut pas freiner parce qu'il tomberait. Donc voilà, donc c'est forcément quelque chose, ce déséquilibre dynamique qui va vers on ne sait quoi, mais si on ne parvient pas à le stopper en faisant la révolution, qui va vers une catastrophe évidente. Et, mais ça, ce n'est pas la monnaie qui l'inclut, qui l'impose. La forme de la monnaie n'est que la conséquence. Et la conséquence peut être un peu plus visible, mais en tout cas la conséquence de cette chose-là.
Oui, justement, ça me rappelle une autre théorie qui a été sortie, c'est-à-dire que, alors qui est même sortie parfois par des écologistes qui sont un petit peu dans cette mouvance un peu conspirationniste, c'est-à-dire l'idée que finalement la croissance automatique du capitalisme serait exigée par les taux d'intérêt. Et qu'en fait, ce ne serait pas du tout la dynamique du capitalisme. Mais non, c'est complètement faux, puisque le capitalisme nécessite une dynamique toujours plus forte, ne serait-ce que pour... Alors, d'une part, on pourrait dire pour accroître le taux de profit, parce qu'il y a un taux de profit, mais tout simplement parce que, pour que ce taux de profit ne serait-ce que se maintienne, il faut toujours mettre en œuvre des moyens de production de plus en plus importants.
Voilà, c'est la base, oui. Et pour qu'il se maintienne, il faut sans cesse augmenter le nombre de travailleurs et le nombre de productions mises en mouvement.
Et du coup, finalement, on va revenir au départ. Mais du coup, qu'est-ce qui se passerait, par exemple, alors peut-être dans une perspective légèrement différente entre ton livre et celui de la grande dévalorisation, mais dans les années 70-80, on est à la fin déjà du cycle, on est à la fin du cycle fordiste. La valorisation qui était liée à toutes les nouvelles industries, l'emploi massif de la force de travail, le compromis social et tout ça. S'arrête. Alors, pour des raisons à la fois qui sont internes, entre guillemets, à la dynamique du capitalisme, c'est-à-dire que, par exemple, les réserves de productivité sont épuisées, les marchés saturent, et puis aussi liées à des luttes de classe assez intenses fin des années 60, début des années 70. Donc voilà, il y a un cycle qui se clôt. Et alors, le nouveau cycle qui s'enclenche, il a ce site particulier, surtout si on suit la, la grande dévalorisation, que il va pas réussir, il va pas réussir à se, et il ne va pas être basé sur un emploi massif de force de travail, la création de, d'un grand nombre de nouveaux secteurs hein, industriels ou même de services qui emploient. Enfin, il va pas réussir à se baser sur, disons, quelque chose de l'ordre de. De voilà des 30, de, du début des 30 glorieuses, il va y avoir le phénomène dans les années 70 de la stagflation, la relance ne va pas vraiment réussir à fonctionner, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on va passer sur le néolibéralisme et la financiarisation. Et cette financiarisation, là, elle joue le rôle, évidemment, de permettre quand même un nouveau cycle de valorisation, quand même, hein, évidemment, il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a plus de valorisation depuis les années 70, il va permettre un cycle de valorisation, mais ce cycle de valorisation tout seul, disons qu'il est quand même largement insuffisant, il ne suffit pas vraiment à relancer le capitalisme, ou pas dans une mesure suffisante pour relancer vraiment les taux de profit et tout ça. Et donc du coup, il va être accompagné par une espèce d'extension d'une fonction déjà ancienne de la monnaie et du crédit, de la finance, qui est en partie de générer un petit peu plus de croissance d'une certaine façon, en mettant vraiment beaucoup plus en créant beaucoup plus de monnaie centrale, de crédit, de capital fictif, entre guillemets. Et ce qui va faire que, contrairement peut-être aux époques antérieures, et c'est pour ça que du coup, on voit un peu plus le rôle, qu'on va voir un petit peu plus le caractère, pas fictif de la monnaie et du crédit, mais plutôt comme anticipation de sur-valeur future, il va y avoir une création énorme de monnaie et de crédit. Alors d'abord dans les années 70 avec les États, ça c'est un truc qu'on a oublié, dans les années 80 avec la financiarisation, et puis dans les années 2010 de nouveau avec massivement les banques centrales et les États, qui va de plus en plus s'avérer au fur et à mesure des différentes crises financières, des différentes crises de la dette et tout ça, s'avérer qu'en fait, il y a une partie de plus en plus importante de cette monnaie et de ce crédit émis sous forme d'anticipation de sur-valeur future qui ne va pas vraiment déboucher sur de la création de valeur, d'où des crises financières de plus en plus monstrueuses et de plus en plus fréquentes et qui à chaque fois sont liées à quelque chose dans l'économie réelle. Par exemple, on se souvient de certains se souviennent peut-être de la bulle informatique de la fin des années 90 qui s'est écrasée au début des années 2000. Bon, évidemment, c'était lié au fait qu'il n'y avait pas eu suffisamment de création de sur-valeur dans ce domaine. Pareil pour la crise des subprimes. Il n'y a pas eu suffisamment de création de sur-valeur dans le secteur de l'immobilier américain. Et c'est là qu'on voit effectivement encore plus ce caractère de la monnaie comme dette, comme anticipation de sur-valeur future.
Après, la spéculation a toujours existé. Hein. Elle est inhérente au système financier et au fait qu'effectivement, dans la spéculation, il n'y a pas de création de valeur. Et en fait, ce que le spéculateur qui joue sur des différences à court terme, en fait, entre des prix, etc., on va dire le bénéfice du spéculateur in fine, c'est une forme de ponction, entre guillemets, c'est vrai, sur la sur-valeur créée dans l'économie réelle, sachant qu'il y a aussi beaucoup de pertes, bien entendu. Et ça, c'est juste dû au fait que la sur-valeur qui est créée dans la production, en réalité, elle ne revient pas intégralement à un capitaliste, mais distribuée d'une certaine manière, alors à vrai, avec des méthodes et des systèmes extrêmement complexes et conflictuels, ça va de soi aussi, mais elle est distribuée ensuite entre un certain nombre de capitalistes ou un certain nombre d'institutions différentes et par le biais justement de cette extraordinaire complexité financière qui existe déjà depuis très longtemps et qui s'est effectivement accentuée dans les années 70. Et alors moi, la remarque que je voudrais faire, elle est double en fait, c'est d'abord que cette période de 1945 à 1970 et à la fin des années 60, cette période des 30 Glorieuses est quand même une période très particulière dans le capital et que c'est... Il faut faire attention, si on regarde les choses que depuis un demi-siècle ou un peu plus, à ne pas la considérer comme la norme, en fait. Parce que je crois que c'était tout sauf une norme. Ça a été un cas bien particulier, bien spécifique, et en plus ça concernait quand même que les pays, disons, du premier cercle capitaliste, les pays occidentaux, les pays anciennement capitalistes, pendant que les autres étaient encore dominés par la colonisation ou par les formes postcoloniales, ou étaient, comme on disait à l'époque, sous-développés. Et donc ce compromis, il a effectivement permis... Un accroissement de ce qu'on appelait à l'époque le niveau de vie de la classe ouvrière et du prolétariat. Bon, alors avec la critique que ça engendrait, évidemment, hein, comme disait Lissitue, on échange la perspective de ne pas mourir de faim contre celle de mourir d'ennui. Mais bon, c'était quand même effectivement une certaine forme de l'exploitation, de l'augmentation de la plus-value relative, etc., etc. Ce compromis-là, il a volé en éclats au cours des années 70 et 80, pour des tas de raisons. Et il faut bien comprendre une chose, c'est que, effectivement, la financiarisation, le néolibéralisme, donc y compris des formes idéologiques et politiques importantes, que les nouveaux procédés de production, avec l'externalisation d'un certain nombre de... enfin, la manière dont les entreprises, finalement, ont muté profondément au cours de cette période-là. Ce qu'on a appelé à l'époque les restructurations, c'est-à-dire en réalité la liquidation d'un certain nombre d'industries en Occident, en Europe par exemple, pour les relocaliser ailleurs, enfin, et le développement exponentiel, bah, d'abord des tigres et des dragons d'Asie du Sud-Est avant que ça soit le développement de la Chine, tout ça et l'Inde et d'autres pays, tout ça évidemment, c'est un tout, et c'est un tout qui se joue aussi sur le fond, bien entendu, de conflictualité ouvrière et prolétarienne. Tu as rappelé que les années 60 et 70 avaient été des périodes où il y avait eu aussi une forte conflictualité, et du point de vue global, on peut dire que tout ça, évidemment, forme un tout. C'est-à-dire que moi, là-dedans, j'aime pas trop dire c'est avant tout la conflictualité ouvrière ou c'est avant tout les contraintes de la valorisation ou c'est avant tout ceci ou cela. Parce que dans l'analyse, on peut les distinguer et voir ces différentes choses. Mais dans la réalité, c'est un tout. C'est un tout qui fait que ce qui ne fonctionne plus à un moment donné, bah, y a autre chose qui fonctionne et qui se met en place à la place. Et que ce truc qui fonctionne mieux, bah, il prend le pas sur le premier. Et donc cette restructuration du capital, évidemment, qui est l'œuvre de capitalistes, je ne vais pas dire le contraire, mais aussi l'œuvre d'un système. Et ce sont les capitalistes qui ont, j'allais dire, joué les bonnes cartes à ce moment-là, qui l'ont emporté, pendant que certains qui représentaient plutôt les formes plus anciennes disparaissaient. Hein. Je veux dire, il y a quand même des... Et oui, c'est la concurrence entre capitalistes. Donc certains capitalistes y perdent dans la restructuration et d'autres y gagnent. Et le capital comme système, lui, il gagne tant qu'il n'est pas vaincu par la révolution et la lutte des classes. Donc à ce moment-là, effectivement, comme un tout, comme un ensemble, va se mettre en place une nouvelle période et qui a certaines caractéristiques, et en particulier, effectivement, le rôle de la finance et le fait que la restructuration y est inachevée. C'est-à-dire qu'on ne va pas remplacer un prolétariat par un autre, parce qu'en réalité, déjà maintenant, en Chine, il y a des endroits qui sont totalement obsolètes, il y a déjà à nouveau des délocalisations. Enfin, je veux dire, il y a sans cesse maintenant une certaine recherche du coût de la main-d'œuvre le plus bas possible, qui ne s'achève pas, en fait. Et ça, on ne sait pas où ça mène, bien évidemment. C'est un déséquilibre dynamique, celui de maintenant. Est-ce que, d'une certaine manière, la crise qui avait commencé dans les années 70, qu'on appelait à l'époque la crise après le choc pétrolier, d'une certaine manière, ça a créé une nouvelle forme de fonctionnement du capital qui ne s'est pas modifié? Je veux dire, par exemple, ce qu'on appelle le chômage, etc., ou en tout cas la précarisation, bah, tout ça a continué depuis les années 70. On ne revient pas du tout aux années 60 ou aux années 50. On n'y reviendra jamais, d'ailleurs. Et ceux qui ont en tête ce modèle fordiste, les politiciens qui prétendent remettre ça en place sont évidemment des menteurs invétérés. C'est impossible. Non, c'est une nouvelle forme qui est déséquilibrée, mais comme l'était finalement celle d'avant, même si elle donnait le sentiment que tout allait bien. Non, en réalité, d'ailleurs, c'était dans l'absolu pas vrai, même y compris à cette époque-là. Et puis, donc, ce nouveau déséquilibre dynamique, effectivement, depuis une dizaine d'années, il bute aussi sur ces problèmes de crise financière et de crise de la monnaie et de crise économique plus globalement. Et voilà. Et qu'est-ce qui peut en sortir? Bon, alors là, ça devient de la politique fiction. Si ce n'est pas une révolution, on peut tout imaginer. On pourrait même imaginer une forme, effectivement, de repli. Parce que pour le moment, il y a quand même et une circulation de capitaux, une circulation de sur-valeur au niveau mondial qui est énorme, une circulation de marchandises aussi qui est énorme. Est-ce que ça pourrait se rétracter et donner lieu à des formes d'accumulation qui se remettre, alors non pas un niveau national, ça semble impossible, mais un niveau continental. Autrement dit, ce qui pourrait y avoir une rupture entre la Chine et les États-Unis, dont les économies, bien entendu, maintenant, et l'Europe sont totalement interdépendantes. C'est de la politique fiction, mais je veux dire, on n'en sait rien. On n'en sait rien et tout est possible. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que si c'était le cas, en tout cas, un repli sur des zones continentales, évidemment, irait avec, serait accompagné de, ce qui est déjà d'ailleurs le cas, de points de vue politiques ultra-réactionnaires, identitaires, etc. Et en plus, bien entendu, à cause de l'accès aux ressources, potentiellement, ça serait le retour vers une forme de guerre. Mais ça, je veux dire, le capital, il n'y a rien d'obligatoire. C'est une possibilité, mais peut-être que ce n'est pas ça du tout qui va se jouer, on n'en sait rien.
Oui, donc du coup, je pense que ce qui est important, du coup, qu'on a vu de manière générale dans l'émission, c'est le caractère dynamique du capitalisme. Et effectivement, aujourd'hui, la dynamique du capitalisme, bon, comme avant d'ailleurs, en elle-même, elle est annonciatrice de rien de positif. Et d'où l'urgence d'une révolution dont les contours restent non définis. Et d'ailleurs, c'est peut-être un des apports de la communisation, c'est de dire qu'on ne peut pas vraiment savoir comment est-ce qu'elle va se dérouler. Mais bon, on ne va pas relancer l'émission à ce stade-là là-dessus. Mais enfin, on espère que dans cette émission, on aura fait le tour de ce qui semblait important de dire. Donc à propos de ce livre, à propos de ces thèses et à propos d'un certain nombre de choses qui sont quand même importantes à évoquer, le caractère dynamique du capitalisme, le fonctionnement de la création monétaire et comment est-ce que tout ça finalement est imbriqué. Et donc du coup, on invite les auditeurs qui souhaiteraient un petit peu approfondir, déjà à lire ce livre, à lire aussi éventuellement La Grande Dévalorisation, où il y a évidemment des points de tension, mais... qui sont à certains égards, que je trouve relativement complémentaires. Et puis d'autres textes comme « Qu'est-ce que la communisation de SIC ?» et puis plein d'autres choses, plein d'autres liens qu'on mettra sur la page de l'émission. Donc merci Léon de Matisse.
Pas de rien, et je voudrais juste pour conclure dire en effet, on ne va pas relancer sur la question de la révolution, etc. Mais il va de soi que c'est quand même ce qui est sous-tendu par le genre de livre comme Crise, c'est-à-dire que si on critique le capital, si on critique ce fonctionnement-là, ce n'est pas juste pour le plaisir de la connaissance ou de critiquer, c'est bien entendu parce qu'il est très important de penser aussi la possibilité de rompre avec ce système. Et que même si ce n'est pas quelque chose qui est développé dans ce livre-là, c'est quand même bien évidemment l'arrière-pensée continue de cette théorie.
Oui, bien sûr, on ne fait pas de la théorie gratuitement, on ne fait pas non plus des émissions radio juste pour pérorer sur le capitalisme, mais bien pour en sortir. Voilà, merci Léon de Matisse.
Merci.
Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Alors je le dis, parce que c'est la vérité. Il ne faut pas travailler.
Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler.